Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, je vous emmène à 130 mètres au-dessus de Paris, en haut de la butte Montmartre. Ici se tient la célèbre basilique du Sacré-Cœur, un monument encore controversé aujourd'hui parce qu'il est, dit-on, lié au massacre de l'épisode de la Commune de Paris. Mais qu'en est-il vraiment? Je vous dis tout de suite. Le 18 mars 1871, dans les hauteurs de la butte Montmartre, débutait la Commune de Paris. Un épisode insurrectionnel d'abord, politique et sociétal ensuite, qui ne va durer que 72 jours jusqu'au 28 mai 1871, mais qui va définitivement marquer l'histoire de la capitale et plus généralement celle de la France. Le Sacré-Cœur, lui, est érigé entre 1875 et 1914, avant d'être consacré en 1919 après la Première Guerre mondiale, mais on raconte qu'il trouverait son origine dans cet événement historique. Cependant, est-ce la réalité? Et surtout, est-il, comme on l'entend souvent, un monument délibérément anticommunard? Car si cet argument est clairement avancé par ses détracteurs qui demandent régulièrement sa démolition, la réalité est pourtant bien différente, vous allez le voir. Pour tout comprendre, je vous propose donc un retour sur la naissance de ce monument emblématique de la capitale qu'est le Sacré-Cœur, mais aussi sur l'épisode de la Commune de Paris. Alors, la Commune de Paris d'abord. Tout commence par l'enlisement de la France de Napoléon III dans la guerre qu'il mène à la Prusse de Bismarck à partir du 19 juillet 1870. Après la capture de l'empereur à Sedan, le 2 septembre 1870, le Second Empire est alors précipité dans sa chute et le 4 septembre, un groupe de républicains mené par Gambetta va proclamer la Troisième République. Mais la situation est précaire car le nord de la France est envahi par les Prussiens. Paris est alors en état de siège et les Parisiens se retrouvent seuls face aux privations. Le 18 janvier 1871, l'unité et la création de l'Empire allemand sont proclamées dans la Galerie des Glaces du château de Versailles et le 26 janvier, l'armistice va être signé, mettant fin à la guerre franco-prussienne. Des élections vont alors être organisées en France et le nouveau gouvernement à majorité monarchiste d'Adolphe Thiers, ancien ministre du roi Louis-Philippe Ier, va négocier la paix avec le nouvel empire allemand. Les conséquences sont dures, la France doit payer cher et elle doit surtout abandonner l'Alsace et une partie de la Lorraine. En parallèle, Paris et ses 2 millions d'habitants républicains, qui se sont battus et ont souffert du siège de la capitale, refusent la défaite et la paix qu'ils jugent humiliante. Le 17 mars 1871, le gouvernement, qu'on qualifie alors de Versaillais puisqu'il a quitté Paris pour Versailles face aux tensions parisiennes, eh bien ce gouvernement va décider de retirer les canons de la garde nationale située autour de Paris et notamment sur la butte Montmartre. Pour les Parisiens, c'est la preuve de l'acceptation des conditions allemandes. Se sentant désarmés, les habitants de plusieurs quartiers se révoltent, dont les Montmartrois, et le 18 mars, ils vont s'insurger et tuer un général Versaillais. C'est là le début de l'épisode de la Commune de Paris. Le 26 mars 1871, les Parisiens vont ainsi décider de faire sécession avec le gouvernement national et de créer un État dans l'État. Un conseil de la Commune de Paris est alors élu, il va former un contre-gouvernement composé de républicains et d'ouvriers. Les communards, comme on les appelle, sont influencés par la Première République, ce régime politique né de la Révolution qui se tient entre septembre 1792 et mai 1804, et ils sont aussi influencés par les idées nouvelles issues des thèses socialistes et anarchistes. Emmenés par ces nouvelles idées, ils veulent reconquérir la capitale et ils prônent une démocratie directe où le peuple décide, par opposition à un régime représentatif où les élus de l'Assemblée nationale proposent et votent les lois. Issue d'un mouvement populaire, la Commune s'organise pour améliorer les conditions des prolétaires et gagner en égalité. Les 72 journées de la Commune seront en effet très productives en termes de législation, avec des avancées notables en termes d'idées égalitaires. Démocratie directe avec suffrage universel direct masculin, instauration comme sous la Révolution du droit à l'insurrection, anticléricalisme et séparation de l'Église et de l'État, ouverture de la nationalité aux étrangers, instauration d'un nouveau drapeau rouge, annulation ou allongement des délais de paiement des dettes et des loyers, création de coopératives et d'entreprises autogérées par les ouvriers, émancipation des femmes et travail sur l'égalité des salaires, réaffirmation de la liberté de la presse, etc. Cependant, la situation va évoluer et tout va changer quand le 21 mai 1871, le gouvernement versaillais décide de reconquérir Paris. C'est alors le début de la semaine sanglante où 20 000 communards vont être tués contre seulement 1 000 soldats du côté versaillais. Dans le même temps, 500 otages vont être exécutés par les communards, parmi lesquels beaucoup d'hommes d'église. Enfin, outre de nombreux immeubles, des monuments emblématiques de la capitale vont être détruits ou incendiés. Le palais des Tuileries, qui était jusque-là la résidence des rois et des empereurs, est incendié et en ruine. Il sera définitivement détruit en 1883. Une partie de la conciergerie est détruite, elle sera reconstruite ensuite pour revêtir l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. La colonne Vendôme va être renversée et détruite avant d'être reconstruite. On accusera d'ailleurs à ce propos le peintre Gustave Courbet qui devra partir en exil en Suisse. La bibliothèque impériale au Louvre et ses quelques 200 000 livres et manuscrits seront également détruits. L'hôtel de ville, lui, sera incendié puis reconstruit plus tard à l'identique. et le palais royal sera lui aussi endommagé. Parmi tous ces dégâts, Notre-Dame et le Louvre échappent de peu à la destruction. Plusieurs communards vont alors être condamnés aux travaux forcés ou à la déportation, comme l'institutrice Louise Michel, qui est contrainte de partir pour la Nouvelle-Calédonie. Finalement, le gouvernement va reprendre la main, et le 28 mai 1871, c'est la fin de la courte mais intense période de la Commune de Paris. Alors, après ce point historique sur la Commune, vous allez me demander ce qu'il en est de la basilique du Sacré-Cœur dans tout ça. Eh bien, comme vous l'aurez compris, la basilique du Sacré-Cœur est bel et bien bâtie sur les lieux de départ de la Commune, en haut du célèbre village de Montmartre, et on comprend donc en partie pourquoi on dit souvent qu'elle aurait été construite à la volonté du gouvernement d'Adolphe Thiers pour protester contre la Commune et expier les crimes des communards. Mais il faut savoir qu'il existe une seconde version plus crédible d'un point de vue historique et chronologique. Nous sommes en plein siège de Paris pendant la guerre franco-prussienne. À ce moment-là, Alexandre le Gentil, un homme d'affaires parisien réfugié à Poitiers, va faire le vœu que les Parisiens construisent une église à Paris s'ils se sortent de ce conflit. L'archevêque de Paris, le cardinal Guibert, ayant eu vent de ce vœu, va l'approuver, puis il va choisir Montmartre pour fonder cette église, construite comme il l'annonce alors, en réparation pour toutes les fautes nationales. Cette phrase est ambiguë, en réparation pour toutes les fautes nationales, je vous l'accorde, et elle peut laisser entendre que le nouvel édifice doit réparer les crimes commis par les communards. Sauf qu'il faut savoir que ces mots ont été prononcés bien avant le début de la Commune, en pleine occupation franco-prussienne, et non pas en réponse aux troubles communards. Vous voyez donc que plutôt que la Commune de Paris, c'est la guerre franco-prussienne qui est plus directement à l'origine du Sacré-Cœur. En réalité, la controverse vient sûrement du fait que le lieu et le projet de construction de la basilique n'ont été acceptés par l'Assemblée nationale qu'en 1873, donc effectivement après la Commune, laissant place à l'ambiguïté. Quoi qu'il en soit, après un concours public, l'architecte Paul Abadie va remporter l'appel d'offres le 28 juillet 1873 avec son église de style romano-byzantin et la première pierre est posée le 16 juin 1875. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog lescarnetsdigor.fr pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pourrez notamment retrouver l'article et le podcast qui relatent l'histoire et la visite que j'ai faite de Montmartre et du Sacré-Cœur. Et enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.